sur les résultats globaux. Ensuite, le professeur Souter a dit qu'il voulait vérifier encore. Il a réuni effectivement quelques experts que moi je ne connais pas. Nous, on n'était pas invités. Et il est revenu de cette réunion en disant que ce groupe d'experts avait dit... Alors, le GES avait des économies d'énergie de 30% par rapport à la moyenne des bâtiments dans le service actuel. Et M. Souter est revenu de cette réunion, où il était seul membre du GES, en disant que les experts qu'il avait consultés avaient dit qu'on pouvait économiser 40%, mais non sans une incidence sur le confort. Alors pour le GES, c'était très difficile d'utiliser ces chiffres. Premièrement, parce que d'une part, on avait des rapports écrits, étudiés, que les gens avaient signés, donc ils mettaient derrière. Il y avait les résultats sur le plan international qui sont nombreux, puis qui sont à peu près conformes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, aux résultats du GES. Puis de l'autre côté, on avait une phrase. Et une phrase qui, en plus, était ambiguë parce qu'il y avait, une économie d'énergie plus grande avec un commentaire selon lequel ça aurait des incidences sur le confort. Alors, ce qu'on a fait, c'est simplement inclure ça dans le rapport tel quel. Mais on ne pouvait sûrement pas changer les conclusions auxquelles on était arrivé sur la base des rapports qu'on avait en main, sur la base d'un événement de ce genre. Moi, je crois que le problème de la consommation spécifique dans les services va être réglé dans les... Il y a tellement de groupes dans le monde qui travaillent maintenant sur ce problème-là que je dirais dans 3 ou 4 ans au maximum, ça c'est une question qui est définitivement réglée. Et puis, à mon avis, on a plus de chances, nous, d'avoir raison que le professeur Souter. Non, là, il parle de 50% par rapport au scénario référence de la consommation totale. Mais ça, c'est une ambiguïté. Ça devient très technique, cette discussion, je m'excuse, mais puisqu'on me pose des questions précises, il faut que j'y réponde de façon précise. Enfin, le problème dans les services, c'est qu'on a vu que les bâtiments nouveaux ont tendance à consommer beaucoup plus que les bâtiments existants. Autrement dit, on a une tendance vers le haut. Alors, si vous regardez maintenant, d'après nos estimations, ça, c'est l'indice énergétique des bâtiments nouveaux en fonction du temps. Ça, c'est la moyenne des bâtiments existants. Les normes du GES sont 30% en dessous de la norme des bâtiments existants, mais ils sont 50% en dessous des bâtiments nouveaux dans le scénario référence. Donc, d'où le chiffre 30 et 50. Mais à l'époque où il y avait la controverse à l'intérieur de la commission, on ne parlait que de 30. Et là, vous voyez de nouveau un exemple de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le scénario référence représente déjà une grande économie par rapport au scénario qui est simplement la continuation de l'évolution sans restriction qu'on a observé il y a 10, dans les 15 dernières années. D'ailleurs, je fais encore une remarque qui est intéressante au point de vue méthodologique, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire un scénario S0 ou de faire un scénario S1 que de faire un scénario S2. Parce qu'on sait, disons dans les limites de ce qui est connu aujourd'hui, mais dans ce domaine-là, c'est relativement bien connu, on sait ce qu'on peut faire si on utilise l'énergie de façon optimale. Par contre, on ne sait pas ce que les gens feront si on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc les scénarios S0 et S1 sont en fait beaucoup plus difficiles à déterminer, beaucoup plus incertains que le scénario S2. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus faciles à réaliser, ça c'est clair. Oui, sur ce point. Non. C'est tous les bâtiments de services, les banques, les assurances, les restaurants, les hôpitaux, tous ces bâtiments qui sont ce qu'on appelle les bâtiments de service, utilisent en général plus d'électricité que d'énergie de chauffage. Et ils en utilisent beaucoup, surtout pour l'éclairage. Et pour l'éclairage et la ventilation et climatisation, c'est les gros utilisateurs. Et puis, il y a une petite quantité qui est les appareils comme, je sais pas, photocopieux, des choses comme ça. Mais comme je dirais, le domaine du tertiaire est un domaine qui va se clarifier dans les prochaines années. On est un peu ici dans la même situation qu'on était dans le chauffage il y a 15 ans, où il y avait d'énormes controverses sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'expériences concrètes qui ont été faites qu'on connaît ces chiffres. Et la SIA, qui est la Société des ingénieurs architectes, est en train de préparer des normes pour ce domaine. Donc je dirais que dans 4 ou 5 ans, on saura à quoi s'en tenir. Je crois que c'est tout, non? Ah oui, ça c'est cette question-là, service. Comment contrôler cette réduction? Faut-il faire un compte en jetement? Quelles autres prescriptions? Ça c'est une question intéressante, évidemment. Si vous dites que dans tel bâtiment, vous devez limiter la consommation à temps, alors vous pouvez le faire au niveau de la conception du bâtiment et ensuite pas regarder quels sont les résultats. Ça c'est ce qu'on fait pour le chauffage maintenant. Mais on peut aussi, dans le cas où ça marche pas très bien, arriver à d'autres solutions qui n'ont pas été discutées par le GES. Je pense que la première solution qui serait appliquée dans ce genre de contexte, ce serait plutôt un prix progressif pour l'électricité, c'est-à-dire qu'on payerait un certain tarif quand on reste à l'intérieur d'une certaine norme, et puis les kilowattheures supplémentaires, on devrait les payer plus cher. Je pense que c'est la première chose qui serait faite, mais je ne sais pas. C'est une question intéressante. Là, je crois que j'ai tout vu. Hein?
Gaz.
Bon, je crois que là, il faut d'abord distinguer les plans. La politique se fait selon des voies qui lui sont propres. Et je crois que le mandat qui a été donné, je l'ai dit au début, le mandat qui a été donné au GES, il était au fond très original. C'est Schlumpf qui nous a dit, c'est exclu d'importer de l'électricité, c'est exclu de faire des grandes centrales. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, ça on ne saura jamais. Mais nous, on était un peu intrigués. On se dit, est-ce qu'ils veulent simplement gagner 3 ans? Enfin, je veux dire. Mais alors, en ce qui concerne le fond, n'est-ce pas, le fait que les politiques étaient déterminées d'une manière ou d'une autre ne change pas le fait qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui connaissent des choses équivalentes. Il y a, disons, une communauté de chercheurs, et il y en a beaucoup en Suède. En Italie, je dirais peut-être moins, hein, mais disons, en Suède, il y a une très forte tradition, bien meilleure qu'en Suisse, en ce qui concerne l'utilisation rationnelle. Et puis la plupart des travaux vraiment originaux et vraiment importants se font aux États-Unis. Donc vous voyez, aux États-Unis, par exemple, on voit une très grande dichotomie entre ce qui est connu par les experts et puis la politique actuelle qui est totalement laissée aller. Donc c'est une question complexe que vous posez là. En ce qui concerne la comparaison internationale, j'ai essayé de mettre un mot de prudence. Enfin, nous, on a demandé à des experts suisses d'étudier ce problème. Des bureaux d'ingénieurs réputés qui ont fait ça, et puis il y a eu une contre-expertise. On a quand même eu un certain... on a quand même senti que c'était un peu notre devoir de voir un peu ce qui se passait également ailleurs. On l'a fait. Mais ceci dit, les comparaisons entre pays dans ce domaine est très difficile, si on veut vraiment la faire de façon rigoureuse. Et là aussi, je crois qu'il y a plusieurs groupes dans le monde qui travaillent sur ce sujet. Et je crois que là, il faut aussi attendre 4 ou 5 ans pour qu'on puisse vraiment être rigoureux dans ce qu'on dit. Mais ce qu'on essaye de faire, là, j'ai des diagrammes qui sont très connus dans le domaine, c'est ce genre de choses-là. Parce que c'est intéressant quand même. Hein. Ça, c'est on porte généralement dans ce domaine la consommation d'électricité, la consommation de combustible. Hein. On porte généralement dans ce genre de problème la consommation de combustible en fonction de la consommation d'électricité en termes d'indice, mégajoules par mètre carré par an. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a les Suédois arrivent par en haut, et ils ont une espèce de leur meilleur bâtiment se trouve dans cette région-là. Puis les Américains, c'est tout à fait différent, ils viennent dans cette direction-là. Mais ce qu'on peut observer, disons, de façon, en disant les choses de façon relativement grossière, c'est que la plupart des études dans le monde sur l'optimalisation arrivent à une région qui est à peu près ici, c'est-à-dire de l'ordre de 300 mégajoules par mètre carré par an d'électricité, et puis de l'ordre de 150 à 200 pour le combustible. Et ça, c'est à peu près les normes du GES. Les normes du GES sont plutôt conservatrices par rapport aux meilleurs bâtiments qui existent dans le monde. Alors, on a aussi fait des choses comme ça pour voir un peu ce comparer un peu les différentes choses, mais on a vite des trucs extrêmement compliqués parce que c'est un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans le monde et puis en Suisse, mais les normes du GES, elles sont, donc ça il faut considérer comme une région optimale ici. Vous voyez, tout ça c'est des expériences qui ont amené peu à peu les bâtiments dans cette région, et les normes du GES, elles y sont pas, mais elles sont plutôt dans cette région là, c'est-à-dire plutôt dans le coin dans le coin supérieur droit de ce qu'on pourrait appeler la zone optimale. Mon jugement personnel, ayant assisté à l'évolution de ce qui se passe pour le chauffage, c'est que les normes qui ont été définies par le GES sont relativement conservatrices, et dans 5 ans, on aura des chiffres plus bas. Mais ça, c'est évidemment une... Pour des bâtiments neufs.
C'est pour...
Non, on a... Alors, si vous êtes d'accord avec les bâtiments neufs, c'est déjà pas mal. Alors, en ce qui concerne monsieur est un spécialiste de ce domaine, donc on peut croire son témoignage. En ce qui concerne les bâtiments, mais vous faites évidemment un point extrêmement important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les rénovations. Alors, pour les rénovations, on a évidemment des indices qui sont moins bas que pour les neufs, ça va de soi. Et puis, on a quand même supposé qu'il y avait une politique de subvention, comme dans le chauffage. Je veux dire, vous ne pouvez pas, vous avez fait d'abord allusion au chauffage, c'est exclu de rénover le parc immobilier suisse sous des conditions économiques. C'est clair qu'il faut subventionner pour que les gens le fassent. Et alors, on a fait les hypothèses standards, c'est-à-dire que ces choses-là sont faites lors d'une rénovation importante qui serait faite de toute façon. Et à ce moment-là, il y aurait en plus des subventions pour que les choses optimales soient faites. Mais dans le cas des rénovations, c'est clair que ça prend beaucoup plus de temps. L'autre réponse, l'autre complément de réponse que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on parle ici de 40 ans. Hein. Et 40 ans, si vous donnez de la peine, vous rénovez quand même pas mal. Hein.
Mais j'ajouterais que le docteur Schmitt avait souligné que justement, du point de vue de la rentabilité des investissements qui avaient été pris en compte dans les scénarios du GESE, c'était là un des cas où justement l'économie d'énergie n'était pas rentable, que donc il fallait trouver une solution de subventionnement.
Bon, vous posez plusieurs questions. Hein. En ce qui concerne les appareils ménagers, le surcoût est calculé, parce qu'encore il faut vraiment entrer dans la production industrielle pour le calculer. Exactement, le surcoût est faible. Ça a été calculé par nos regards il y a déjà plusieurs années, par exemple pour les réfrigérateurs. Alors le point que vous faites, ça c'est le centre du problème, n'est-ce pas ? Est-ce que les gens vont accepter ces parois plus épaisses ? Mais on avait une question particulière. On vous demande, vous avez l'air de dire c'est absurde de faire ça. Nous, on a simplement dit, si vous voulez abandonner le nucléaire, la façon la plus raisonnable, c'est de faire ça. Ça ne veut pas dire que c'est raisonnable de faire ça. Ça veut dire que c'est le plus raisonnable, à notre avis. Si on nous dit comment abandonner le nucléaire, alors il vaut mieux accepter des réfrigérateurs avec des parois épaisses dans la cuisine que d'installer des centrales chaleur-force partout. C'est ça notre réponse. Et je crois que cette réponse, elle est justifiée. Je crois que c'est effectivement ce qu'on peut faire de moins stupide dans un cas comme ça. Maintenant, vous me dites, partout dans le monde, on peut faire autant de climatisation qu'on veut et puis pas à Genève. Là, c'est un peu ma conviction personnelle. Moi, je crois qu'on va quand même arriver à des limites un peu partout. Je veux dire, ici, on a une résistance contre l'énergie nucléaire. Mais c'est une résistance qui existe aussi dans d'autres pays. Alors la plupart des autres pays, comme le disait le professeur R, ils vont vers le charbon, ils vont vers le gaz, ils vont vers le fuel. Mais ça aussi, ça va créer des tensions. Et je crois plutôt rapidement. On va parler de plus en plus de l'effet de serre, on va parler de plus en plus de la couche d'ozone. Et là aussi, les gens vont se retrouver dans ce problème tel qu'il a été un peu défini dans le rapport du GES. Oui, on peut effectivement consommer autant d'électricité qu'on veut, mais ça a certaines conséquences. Alors pour finir, c'est ça qu'il faut choisir. Oui, c'est un choix très réel qu'on a à faire là, à long terme. Alors économique. Non, scénario référence.
Scénario. C'est pas peut-être dans le cadre du contrat temporaire, puisque les économies au niveau des économies d'électricité sont de 50%, le secteur de vos économies, puisque vous êtes à 29%, et puis deux sont là, entre 9 à 15%.
Oui, attention. Non, mais là, je me suis mal, sur ce point, alors, si vous avez compris ça, je me suis mal exprimé. J'ai dit, dans le contexte des ménages, j'ai décrit le futur en termes de saturation des appareils, etc. Et la base de ça se retrouve dans le scénario référence. Et ce que j'ai dit, c'est que le scénario référence des électriciens est le même que le nôtre, le scénario référence. Parce qu'il montre que la description de la réalité est cohérente. Et quand on regarde les détails, partout on peut les regarder parce qu'ils sont beaucoup moins explicites que nous, ils sont très cohérents avec nous dans leur analyse. Alors quand vous dites que le Conseil national a cru qu'on pouvait économiser un facteur 4, je ne sais pas, mais en tout cas il n'a pas montré par ses décisions qu'il était décidé à aller dans cette direction, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il y avait une deuxième question.
Vous avez montré la différence qu'il y a entre l'utilisation actuelle et l'utilisation possible.
Écoutez, je crois que c'est évident que dans le tissu politique suisse actuel, c'est une politique qui n'est possible que si elle est choisie ou acceptée. Donc, c'est exclu de parler d'une contrainte à la limite policière. Donc, c'est pour ça que aussi je dis le choix à faire entre ces différentes évolutions. Et puis, il y a toutes sortes de nuances entre la référence où on fait très peu et puis l'abandon en 2025 où on fait beaucoup, il y a toutes sortes de nuances entre deux. Il y a ce scénario qui me semble important au point de vue de la réflexion, qui est le scénario référence renforcée dans lequel on ne s'oppose pas au nucléaire, mais on essaye quand même d'économiser l'électricité de manière raisonnable, qui pourrait peut-être rassembler une majorité, j'en sais rien. Mais pour le moment, il a plutôt tout le monde contre lui, mais les esprits peuvent évoluer. Alors je pense que c'est un choix, vous voyez, pour finir. C'est un choix, c'est à vous personnellement de savoir ce que vous préférez, vous en tant que citoyen. Est-ce que vous préférez aller dans une direction où vous acceptez davantage de centrales nucléaires avec les problèmes que ça peut poser peut-être. Enfin, ça c'est votre jugement. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est vraiment un choix politique. C'est-à-dire c'est un choix qui doit être discuté par le tissu politique d'un pays. D'une part, on peut aller économiser relativement, disons mollement, et puis là on a besoin de plus de centrales nucléaires. Ou bien on peut prendre cette utilisation optimale comme un but prioritaire de la volonté politique, avec le bénéfice peut-être d'avoir moins de centrales, ça c'est aux gens de juger, mais aussi certaines contraintes, c'est clair. Oh, la mesure de contrainte, vous savez, alors... Non, alors la mesure de contrainte... La mesure de contrainte, elle est faite de telle manière que le confort, l'essentiel du confort n'est pas touché. Autrement dit, l'exemple du réfrigérateur est très bon, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez autant qu'avant mettre votre lait au frais et puis vos rejetis pour le lendemain, mais vous devez accepter, par exemple, d'avoir moins de choix dans le type de réfrigérateur que vous pouvez acheter. Il y aura peut-être que 3 ou 4 marques, au lieu d'en avoir 50. Oui, c'est ça. Alors, c'est une contrainte. Est-ce que c'est une contrainte que... Ça, c'est un problème qu'on ne peut pas... Mais alors là, le directeur de la séance m'a présenté comme un apôtre des économies d'énergie. Moi, je ne suis pas un apôtre des économies d'énergie. Ce que je dis, c'est que cette dimension doit être discutée. Un. Et puis deuxièmement, et ça c'est une conviction personnelle, je crois que pour toutes sortes de raisons, de l'environnement et de limitation des ressources, de toute manière, un jour ou l'autre, on devra s'approcher de cette façon d'utiliser les ressources naturelles. Pas seulement l'énergie, mais tout. Je veux dire, le mercure, les métaux lourds, enfin, toutes les ressources naturelles sont telles que si on les gaspille, on a des problèmes quelque part. Donc, de toute manière, la société, mais ça c'est une conviction personnelle, doit peu à peu apprendre à utiliser les choses de façon optimale.
Oui, dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de contraintes perceptibles pour l'individu. Mais bon, il y a quand même des effets qu'on va ressentir indirectement, notamment au niveau de la contrainte financière, puisque le coût du bâtiment augmentera. Et ça ne pourra se percevoir que par comparaison avec les pays voisins où ces normes ne sont pas appliquées. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Accroissement de quoi? Du PIB? De l'énergie? Plus de 50.
Oui.
Non, mais ça, c'est
non,
le PIB.
Vous vouliez la consommation d'énergie?
Oui, consommation d'énergie.
Globale.
C'est plus 50. Plus. Ouais, presque, en électricité, c'est le double. Donc, sur 40 ans. Non, pas autant, non, c'est 2,5. Pour le PIB. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les problèmes que vous citez, on a vraiment essayé d'y réfléchir de façon approfondie. Hein. Et chaque fois qu'on a eu des doutes, on a fait faire des études. Je ne peux pas vous dire plus que ça. On a fait notre mieux. Par exemple, sur le problème des nouvelles prestations dans les ménages, je vous ai cité tout à l'heure, on n'y a pas seulement réfléchi. Et on a essayé de trouver des gens qui nous faisaient des études. Et dans le cas des services, par exemple, il y a un problème qui est très actuel maintenant, c'est d'essayer d'évaluer l'augmentation de consommation d'électricité à cause des appareils qui augmentent très rapidement, les micros, les terminaux, tous les appareils de bureautique, etc. On a fait faire une étude spéciale là-dessus et on en a tenu compte. Plus que ça, on ne peut pas faire. Je veux dire, mais en tout cas, les problèmes que vous citez, on y a vraiment réfléchi, on a essayé d'en tenir compte. La seule impression qu'on a fait quelque chose qui était pour moi relativement raisonnable, c'est que notre scénario référence elle-même suit des électriciens. Ils ont aussi eu leur propre groupe qui ont fait leur travail tout à fait indépendamment de nous et qui ont fait des hypothèses qu'on ne connaît pas très bien dans le détail, mais dans certains cas on les connaît, et ils sont arrivés à des hypothèses très proches. Et tout ce que je peux vous dire en plus, c'est que effectivement c'est beaucoup plus difficile de faire un scénario référence que de faire un scénario économie d'énergie. Parce qu'il y a là une incertitude sur le comportement des gens quand personne ne leur demande rien, qui est très difficile à percevoir, à deviner.
Monsieur. Pardon.
L'essentiel.
Oui.
L'essentiel.
Ah.
Alors qu'est-ce que c'est?
Du point de vue du confort, oui.
Ah, le confort essentiel, il doit évidemment définir de cas en cas. Et il y a toujours une certaine incertitude. Mais par exemple, dans le cas du réfrigérateur, c'est évidemment de voir si vous aviez avant un réfrigérateur 200 litres qui vous tient, qui a une certaine température intérieure, ben vous devez avoir après un réfrigérateur du même volume qui a la même température intérieure. C'est ce qu'on appelle le confort essentiel. Et dans le cas de la voiture, j'ai aussi essayé de définir comme étant un engin à quatre places avec de la place dans le bagage qui va à une vitesse raisonnable et qui accélère une accélération raisonnable. Mais c'est clair que il y a un certain flou. D'ailleurs, dans les diagrammes que j'ai montrés, j'ai toujours montré une certaine zone d'incertitude, qui n'est d'ailleurs pas tellement importante à cause de ce facteur 2, 3 à 4, qui a toujours la consommation aujourd'hui puis la consommation optimale. Donc, vous pouvez varier un petit peu les services autour de la consommation optimale, ça ne change pas grand-chose à l'essentiel de l'analyse.
Mais disons, est-ce que globalement, ce facteur de confort n'est pas défini par la panoplie d'appareils que vous avez pris en considération pour définir l'équipement du ménage?
Dans le cas du ménage, c'est ça, plus d'autres qu'on a essayé d'imaginer. Par exemple, le robot, dont tout le monde dit qu'il y aura bientôt un robot ménager qui poussera automatiquement. Non, mais on a vraiment, puis on a calculé la consommation de ça. C'est clair qu'il y aura de nouveaux services de ce genre de choses, de ce type-là. Et puis, par exemple, c'est clair qu'il y a des limites dans ce genre d'exercice. Mais par exemple, pour les réfrigérateurs, on a supposé que le volume moyen allait augmenter parce que c'est une tendance qui a existé dans le passé. Puis tout le monde sait qu'aux États-Unis, les réfrigérateurs sont aussi grands que les cabinets chez nous. Donc, on a tenu compte de ça aussi, mais on ne peut pas. Et un exercice comme ça, c'est une espèce de synthèse des meilleures connaissances qu'on arrive à rassembler en un temps déterminé. C'est pas la Bible pour toujours. Simplement, on pense que c'est mieux de prendre des décisions après avoir réfléchi que sans avoir réfléchi.
Moi, une question qui me préoccupait, c'était la prise en considération du facteur d'utilisation, une question qui était soulevée par le professeur Souter. Au fond, puisqu'il opère en sens inverse de l'augmentation, de l'accroissement du parc d'équipement, souvent, au fond, on peut augmenter le nombre de voitures par famille, mais il faut prendre en considération le fait que la deuxième voiture ne sera pas utilisée au même taux que la première, probablement. Et la troisième, encore moins. Alors, est-ce qu'on on a tenu compte un petit peu de ce facteur?
Oui, on a partout mis ce qu'on appelle des facteurs d'intensité d'utilisation. Par exemple, dans l'éclairage, c'est intéressant parce qu'il y a une tendance historique qui fait qu'on s'éclaire de plus en plus partout. On voit ça avec les lampes halogènes maintenant. Et on a admis qu'en tendance contraire de l'amélioration des caractéristiques techniques, l'intensité d'éclairage allait augmenter d'un facteur 2 dans les prochaines 40 années. C'est une extrapolation de la tendance. Donc on a tenu compte de ce genre de choses, dans la mesure du possible.
Oui, 1, 2. Ok. 1, 2. 1, 2, 1, 2.
Ah, là, je suis très prêt.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, En fonction du bruit qu'il y aura, ça ouais, c'est 4, à toi 5, de voir.
5, 5,
ne pas faire dépasser l'histoire. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2.